Mesdames, messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette édition de la quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui, M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre, que je laisse présenter notre invité et le sujet du jour.
Bonjour à tous, bonne quotidienne. Pierre, bonjour. Alors, Michel bonjour, Saint-Pierre, bonjour, notre Yannick co-animateur, bienvenue. Pierre Miéquez, vous êtes à Paris, vous êtes en Zoom avec nous, on est très heureux de vous avoir. On s'est rencontré, Pierre, la semaine dernière, un peu plus tard que ça, en fait, quand j'étais à Paris dans le cadre de la mission pour les céréaliers du Québec. On a fait une sorte de prolongation au Halles de Rungis, au cœur de Rungis, et ça va faire partie d'une bonne partie de l'émission, parce qu'il va falloir expliquer aux gens ce qu'est exactement Rungis, ce marché extraordinaire en France. Mais avant de parler de Rungis, c'est peut-être d'ailleurs que Christian se joindra à nous quand on sera dans cette étape de la quotidienne. Moi, j'aimerais ça qu'on présente le personnage, parce que j'ai eu la chance de manger justement à Rungis à la Marée, au restaurant de fruits de mer avec Pierre, et je me suis rendu compte que Pierre est vraiment un personnage de la gastronomie française. Alors, avant de parler de ce qu'on a vécu, nous, en France, à Rungis, j'aimerais ça peut-être que vous nous expliquiez d'abord votre parcours, parce que vous avez été chef au Bristol. Nous expliquez un petit peu ce qu'est le Bristol, parce que c'est pas la moindre des institutions. Vous avez fait partie, je pense, vous avez été chef exécutif la chaîne Accor, et vous avez été aussi président de ce qu'on appelle les disciples d'Escoffier, qui est une tradition gastronomique en France depuis les années 50. Donc peut-être nous dresser votre portrait, que nos auditeurs savent à qui on parle aujourd'hui, Pierre.
Bon, en tout cas, bonjour le Canada, bonjour les amis. Je me présente, donc je suis Pierre Miéquez. J'ai fait toute ma carrière dans le monde de la cuisine. Une carrière qui a débuté par, bien sûr, l'école hôtelière à Paris. Moi, je suis issu, donc né dans le centre de la France qui s'appelle l'Auvergne, donc un pays extrêmement voué à l'agriculture. Mes grands-parents étaient agriculteurs et mes parents sont montés très jeunes à Paris pour travailler, pour aller chercher du travail. Et ils ont été dans le monde, ce qu'on appelle du bar-brasserie. Donc j'étais déjà imbibé dans ce milieu de on va pas dire de la gastronomie, mais de la cuisine et du bar. Ouais. Et suite à mes études dans cette école hôtelière, alors je suis bien sûr passé par des grandes maisons qui m'a permis de faire mon parcours, comme on dit, comme un compagnon, c'est-à-dire de faire mon école, de faire différentes écoles, et entre autres le Café de la Paix qui est place de l'Opéra, qui est très connu à Paris, le Bristol, mais là j'étais pas en tant que chef, hein, j'étais en tant que chef de partie dans une grande brigade pour faire mes armes. Et ensuite, je suis arrivé dans un grand groupe qui s'appelle le groupe Accor, à travers une marque qui s'appelle Sofitel, qui m'a permis d'apprendre le métier, surtout sur la gestion des hommes, la gestion des produits, et le management qui a commencé à devenir un point très important. Parce que il y a quelques années, on va dire en une trentaine d'années, le management en cuisine était un management un petit peu comme on peut le percevoir dans les armées, hein, où il y a un chef, il y a 8 chefs et voilà, il y avait très peu de façons de pouvoir échanger. Maintenant, ça a changé. Les chefs sont beaucoup plus ouverts sur leur brigade et partagent leurs connaissances et échangent avec leurs équipes, ce qui est une belle évolution. Et puis également, ce qui a fait changer notre métier, c'est l'arrivée des femmes en cuisine. C'était très rare à l'époque. Et puis, on va dire, depuis une quinzaine d'années, on voit de plus en plus de femmes qui viennent, qui ont envie de faire le métier de cuisinier, le métier de pâtissier, de pâtissière. Et ça a apporté, si vous voulez, dans un premier temps, l'hygiène. Beaucoup, les femmes sont beaucoup plus attentives, beaucoup plus attentionnées à l'hygiène. Et ensuite, le comportement des hommes cuisiniers ont changé. Parce que quand vous avez des femmes dans une brigade, on est un peu moins, on fait attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc ça a apporté une belle évolution à notre métier. Et ensuite, j'ai eu la chance donc d'être chef de cuisine dans différents établissements, surtout parisiens. J'ai été chef de cuisine dans 3 Sofitel à Paris et à chaque fois j'ai eu la chance de pouvoir être nominé au Michelin avec une étoile. Alors pas seul, hein, un chef de cuisine c'est pas lui qui la gagne, c'est sa brigade. Et ensuite, j'ai travaillé pour un très grand groupe qui s'appelle le groupe Elior, où là, je travaillais pour des tables de direction qu'on appelle de patrons. Voilà un petit peu mon parcours rapidement.
Et Pierre, tu as été aussi, parce que je te tutoie, parce qu'on l'a dit juste avant l'entrevue, maintenant qu'on a fait la nuit à Rungis ensemble, on se tutoie. Tu as aussi été président des disciples d'Escoffier. Alors peut-être expliquer en fait à nos auditeurs, parce qu'en fait c'est important dans le sens que ça existe depuis les années 50, il y a une 40 ou 50 délégations dans le monde, mais à quoi ça sert et comment on devient disciple Escoffier en fait?
Alors j'ai été président de la délégation Paris, où je suis toujours actif. Les disciples d'Escoffier, c'est, si vous voulez, c'est sur une base qui est d'Auguste Escoffier, qui, autour des années 1900, a écrit le guide culinaire. Le guide culinaire, c'est aujourd'hui le solfège de la cuisine, c'est-à-dire que c'est toutes les bases traditionnelles de la cuisine classique. C'est-à-dire quand on va à l'école, on prend le guide culinaire et on travaille à partir de ce livre. Bon, bien sûr qu'il a été un peu modernisé, mais on est toujours sur les mêmes techniques de cet homme qui était un homme visionnaire et surtout extrêmement technique. Et donc, il y a eu dans les années 1930 des chefs qui ont été formés par ce maître, hein, parce qu'on l'appelle le maître, qui a souhaité créer cette association depuis 1930, et progressivement cette association s'est agrandie en France, en Europe, parce que c'est un monsieur qui a vraiment été le plus grand ambassadeur de la cuisine française. Il a travaillé surtout en Angleterre, il a été aussi en Russie, il a été à New York, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, porté le savoir-faire français. Et aujourd'hui, si vous voulez, les disciples d'Escoffier, c'est à peu près 30 000 membres dans le monde entier. Donc, c'est très, très important.
30 000 membres,
pourquoi?
Et puis, des chefs cuisiniers en grande partie, mais pas seulement, je crois.
Alors, il y a essentiellement des chefs de cuisine, quelques pâtissiers, et également, ça s'est ouvert également sur les gens du service, les sommeliers, les maîtres d'hôtel, et puis et également quelques personnes qui ont, si vous voulez, ce savoir-faire de producteurs, des producteurs de produits haut de gamme, de très grande qualité. Mais si vous voulez, à quoi ça sert ce club? Ça sert déjà à se rencontrer, à échanger, à partager, à pouvoir créer des projets ensemble. Donc, si vous voulez, à travers des repas, à travers des réunions, à travers des congrès, les chefs de différents pays, de différentes cultures, peuvent se rencontrer, échanger, partager. Aujourd'hui, il y a Internet, mais le fait de pouvoir se rencontrer, d'échanger des techniques, d'échanger des produits. Pourquoi la cuisine française a beaucoup évolué? Parce qu'elle a intégré des produits qu'elle n'utilisait pas il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Beaucoup de produits asiatiques maintenant sont couramment utilisés dans la cuisine française.
Alors justement, à travers ton parcours, Pierre, on voit, on sent la gastronomie française, mais avant qu'il y ait la gastronomie française, il faut d'abord aller au marché. Et justement, j'aimerais ça qu'on arrive à ça, parce qu'on arrive d'une mission avec les Céréales du Québec, où tu nous as donné la chance de faire la nuit à Rungis. Alors, faire la nuit à Rungis, c'est particulier, parce que, comme je disais avant l'entrevue, on en a parlé un petit peu, j'expliquais à Michel un peu aussi, qui ne rêve que de ça, d'aller faire la nuit à Rungis. En fait, même en tant que Français, on sait ce que c'est la nuit à Rungis, parce qu'on voit des reportages, parce qu'on entend parler de Rungis, on a connu les abattoirs à la Villette, etc. Mais on n'a jamais conscience que c'est réellement un village dans le village. En fait, on rentre, d'abord il y a des barrières de contrôle pour entrer avec les voitures, il y a des camions qui passent, il y a des Fenwick et compagnie, et finalement il y a des halles, en fait des halles de poissons, des halles de légumes, de fleurs, de viande, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi des pâtisseries, il y a des boulangeries, il y a des restaurants, donc c'est une ville dans la ville, et on voit les ouvriers toute la nuit s'arrêter, un pour un croissant, l'autre pour un café, l'autre pour manger une bavette. Donc c'est une vie de village de nuit. Et ça, c'est très impressionnant. Puis il y a une atmosphère, il y a une humanité de vie ouvrière qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la vie de tous les jours, et qui nous remonte un peu dans le temps. Et c'est d'autant plus frappant parce qu'on était dans une période, en fait, où on regardait la télé puis on disait que la France était à l'arrêt. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à Rungis, ils sont loin d'être à l'arrêt. Hein. Ceux qu'on a vu bosser de 2h du matin... Bah, oui, nous, on est arrivé à 2h, ils avaient commencé à minuit. Ceux qu'on a vu bosser de minuit à 8h du matin... De mémoire, je pense que tu nous as parlé de 1400 entreprises sur le site, 18 000 employés, 240 hectares. Ça roule. Hein. Et ça, c'est une atmosphère. Franchement, on est chanceux de vivre ça une fois dans sa vie. Donc pour ça, je t'en remercie. Puis c'est ça que je voulais faire transparaître un petit peu. D'ailleurs, Christian nous a rejoint dans le studio. Christian qui faisait partie de la mission aussi.
Bonjour Pierre.
Et je pense que c'est une vie nocturne importante parce qu'elle alimente, c'est ça que vous nous expliquez, pourquoi Rungis, c'est que ça alimente, oui, ouais. Paris, et plus que Paris en fait, ça alimente la France.
Oui. Mmh. Où Yannick, où tu as mis un point au départ qui est très important, pour un cuisinier, il faut des bons produits. Mmh. Un cuisinier n'est pas un magicien. Si tu lui donnes de mauvais produits, il ne peut pas faire une bonne cuisine, c'est pas possible. Avec des bons produits, il peut faire une mauvaise cuisine. Ça, c'est vrai. Mais au départ, il faut des bons produits. Donc, bon produit ne veut pas dire produit cher. Hein, il peut y avoir de très, très bons produits, très haut de gamme, très cher. Mais il peut y avoir des produits de base extrêmement simples où on peut faire une très bonne cuisine journalière. Donc, si tu veux, le marché de Rungis a débuté aux entours de 1970. Quand il y avait auparavant ce qu'on appelait les Halles de Paris, en plein cœur de Paris, et ces halles étaient devenues trop petites pour le volume, et surtout insalubres. Donc il n'y avait plus les moyens de respecter les nouvelles règles d'hygiène, et donc ils ont décidé de déporter ce marché qui était au cœur de Paris, le ventre de Paris qu'on disait, hein, à Rungis. C'est pas très loin, hein, c'est à quelques kilomètres des portes de Paris. Et donc, il y a toute une nouvelle organisation qui s'est mise en place. Donc, tu as parlé, il y a des pavillons, des grands pavillons différents. Il y a les fruits et légumes, il y a la boucherie, la triperie qui est différente, la volaille. On a également les fromages, beurre et les œufs. On a également les fleurs. Et puis après, il y a d'autres pavillons qu'on n'a pas visités, mais c'est l'emballage. Ça peut être beaucoup de choses qui tournent autour du restaurant, autour de la gastronomie, autour des produits.
Alors, on va aller une courte pause.
Alors, pourquoi ils ont mis des pavillons extrêmement séparés ? Parce que les règles d'hygiène sont différentes en fonction des produits.
Pierre, on va aller une courte pause parce qu'il faut passer nos pubs. Puis après, je pense que Michel a des questions sur Rungis.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca. Et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole par son émission La quotidienne se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Alors bon retour dans la quotidienne. Nous sommes avec Pierre Miéquez, chef français avec qui on vient d'échanger. Il vous a raconté un petit peu son parcours un peu particulier et intéressant. Et aussi la nuit, donc, nous avons passé à Rungis. On commençait à parler justement on faisait saliver Michel en lui parlant des halles de Rungis. On va pouvoir échanger un peu avec Michel. Puis on parlera peut-être avec Pierre tout à l'heure et Christian aussi, parce qu'on a aussi visité les entrepôts de Vivalia et de Laurence. En fait, vous êtes aussi un consultant en fait pour des compagnies intermédiaires entre les différents niveaux. On en parlera tout à l'heure. Mais Michel, Rungis, ça t'allume.
Bien, ce qui m'a aussi allumé, c'est de voir que vers les années 70, c'est là qu'on a constaté qu'il n'était pas possible de fonctionner avec les halles de Paris. Et si je voulais faire un petit parallèle ici, c'est qu'on avait aussi des marchés, rien de comparable, je veux dire en passant, mais on avait quand même des marchés qui approvisionnaient des coins, des carrefours de Montréal, comme le marché tout près d'où tu vas souvent.
Atwater.
Le marché Atwater. Mais ces marchés-là recevaient aussi à l'époque des poditeurs. Et il y a eu dans les mêmes années le développement du marché central métropolitain. Bon, mais qui n'a rien de comparable parce que c'est pas ni en dimension, je pense, ni en diversité d'activités. Parlant de ça, je voulais avoir quelques chiffres un peu sur l'important, la grandeur de ça. Vous nous parliez qu'il y a des bâtiments. Ces bâtiments-là sont il y a des distances qui sont relatives à par exemple, au côté sanitaire, là, qui fait en sorte qu'on doit donc séparer les productions. Mais tout ça, c'est un village. C'est un village d'une assez grande importance en termes de superficie.
Oui, c'est un milieu où les gens... Il y a à peu près 12 000 employés, mais c'est par secteur, par zone. Les gens se connaissent, les gens travaillent. C'est des métiers difficiles, dans des conditions où il fait froid, où les horaires sont complètement décalés, des gens qui commencent à 22h, minuit, 2h du matin. Et donc, il y a une solidarité entre ces gens-là qui est extrêmement importante. Et ils ont besoin de travailler dans une ambiance, une très bonne ambiance. Et puis, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent se mélanger à ces gens-là. Des acheteurs, des restaurateurs, des boulangers, des poissonniers qui viennent faire leurs achats. Alors, c'est un marché, il faut le dire, réservé aux professionnels. Le public ne peut pas aller acheter, il faut avoir une carte de professionnel. Le public, sur invitation, parce que c'est très contrôlé, peut venir visiter, regarder comment se fonctionne le marché de Rungis, mais c'est réservé aux professionnels.
Oui, d'ailleurs, vous avez un rôle, puis Christian nous a amené, grâce à ses contacts, vers vous et vers Vivalia, vers Laurence, qui sont des compagnies, est-ce qu'on peut dire des traders, des courtiers? Parce que c'est comme vous êtes les intermédiaires chez Vivalia et Laurence, entre les produits qu'on retrouve à Rungis et finalement les restaurants de Paris ou l'Élysée, même pour certains, parce que Vivalia fait affaire avec l'Élysée.
Oui, il y a beaucoup de distributeurs. Rungis ne livre pas les restaurants directement. Rungis, c'est des grosses sociétés qui importent des produits locaux de France, d'Europe et du monde, bien sûr, et ensuite met à disposition aux distributeurs. Le rôle d'un distributeur, c'est d'aller chercher les produits que souhaitent ses clients et le livrer à la porte de son établissement. Ça, c'est le rôle du distributeur. Alors, si on parle de Vivalia, si on parle de la maison Laurence et au-dessus, donc le grand patron, c'est la société Le Saint. Si vous voulez, ces gens-là ont organisé leur entreprise pour aller chercher les produits que souhaitent leurs clients. Grossièrement, c'est des gens qui vont s'alimenter en direct chez les producteurs, à peu près à 60% de produits en direct, et 40%, ils vont aller chercher les compléments sur le marché de Rungis. Voilà un petit peu comment s'organisent les distributeurs.
Quand on parlait de Rungis, on parlait souvent à l'époque, quand les premières années, je suis allé au CIAL, d'abattoir. On parlait surtout des viandes. Est-ce que c'est encore une activité qui est centrale pour Rungis?
Alors, dans Rungis, il n'y a pas d'abattoir.
Bon.
Les abattoirs sont en dehors, ils sont disséminés un petit peu dans toute la France. Les produits arrivent abattus et la plupart des produits arrivent propres. il n'y a pas de peau, y a les entrailles, tout ça sont été retirés. Donc c'est des produits plutôt des carcasses qui arrivent à Rungis, et ensuite c'est découpé sur Rungis. Mais les bêtes, quand on parle des bêtes, elles sont abattues ailleurs. Il n'y a pas de poulet, par exemple, qui arrive vivant. Tous les poulets sont abattus dans des laboratoires, des abattoirs qui sont spécialisés. C'est pas la spécialité de Rungis.
Christian, dans les rencontres qu'on a fait, notamment chez Vivalia, où tu nous as emmené avec Pierre, on se rend compte en fait que ces compagnies intermédiaires connaissent très très bien leurs producteurs, parce qu'on a vu, ils nous ont expliqué comment ils avaient la connaissance du produit, la connaissance du producteur, mais aussi la connaissance du client. Parce qu'on a eu une explication, on est où on disait, selon où on livre, il peut y avoir un contrôle, deux contrôles, trois contrôles. Comme chez Calilisé, il y avait comme trois étapes pour s'assurer que les paquets qui partent, alors ça peut être des paquets en gros ou des paquets très fins, parce que certains grand chef où l'Élysée parfois a besoin de, je dirais pas d'un radis, parce que ça me rappelle quasiment une histoire d'un film de Louis de Funès, un radis, mais c'est quasiment un légume précis. Donc il y a quand même, il y a toute une panoplie de distribution en fait avec ces compagnies-là.
Effectivement, puis Pierre va le dire plus clairement avec des choses qui vont marquer un peu plus l'imaginaire. Vous servez combien de restaurants avec macarons Michelin déjà, Pierre? Je crois plus d'une cinquantaine. Ça cumule plus de...
La maison Laurence, elle sert à peu près, oui. Une cinquantaine, c'est un petit peu plus. On va dire plus de 100 restaurants étoilés. Mais le marché n'est pas constitué que de restaurants étoilés. C'est quand même des restaurants, une élite. À Paris, il y a beaucoup de brasseries, ce qu'on appelle la cuisine parisienne, où on va manger des plats canailles, beaucoup de bistrots. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des restaurants d'entreprise, il y a des écoles, il y a des administrations. Tout ça, donc, il faut avoir toute une palette. Et ce que l'avantage de Rungis, c'est qu'il y a une palette très importante, des produits pas chers jusqu'aux produits très haut de gamme. Donc on a un marché qui est extrêmement intéressant pour le distributeur, car il n'a pas besoin d'aller faire 50 000 points d'arrêt pour aller chercher ses produits. Dans la nuit, pratiquement, il a tous ses produits, regroupé tous ses produits, et peut les distribuer le matin même chez les restaurateurs. Il faut savoir qu'à Paris, l'avantage d'un restaurateur, c'est qu'il fait son service du midi et du soir. À 22h, 23h, il appelle son fournisseur et il dit « Pour demain matin, livraison à 7h ou à 8h du matin, je veux du poisson, je veux de la viande, je veux tel type de fruits, tel type de légumes. » Et il a ses produits le lendemain matin. Donc le distributeur a à peu près 8 heures, grand maximum, pour regrouper tous ses produits et les livrer sur place. Donc c'est un avantage, mais il faut être organisé.
Et le restaurateur, lui, il n'a pas grand temps pour dormir non plus.
Pardon?
J'ai dit le restaurateur qui fait cette commande-là à minuit, il n'a pas grand temps pour dormir parce qu'il va les recevoir le matin aussi.
Il y a quelques restaurateurs qui font le marché de Rungis, mais c'est tellement compliqué parce que... Il ne trouve plus le moment pour dormir, parce que la journée, midi et soir, il sert ses clients, et la nuit, il faut qu'il aille faire ses courses. Donc, c'est pour ça que les distributeurs ont totalement leur place.
Et, ce qu'on achète dans un supermarché, est-ce que ça passe par Rungis pour ce qui est des supermarchés comme Leclerc dans la région parisienne?
Non. Les grandes surfaces qu'on appelle la GMS, ouais, ont leur propre réseau de distribution. Vu les volumes, ils vont les chercher directement à la source. Par contre, il y a des petites surfaces qu'on appelle les moyennes et petites supérettes. Là, oui, ils ont un marché, ils vont au marché de Rungis. Mais si vous voulez, les grandes surfaces, la GMS, ont leur propre réseau de distribution. Donc Rungis est vraiment surtout approprié pour la restauration.
Et au niveau de Rungis, au niveau de l'éclatement de la distribution, on parle de Paris, l'Île-de-France, est-ce que ça va plus loin en France aussi? Est-ce qu'il y a des livraisons? Est-ce que certains chefs étoilés vous demandent ça, s'ils sont à Toulouse par exemple ou...
Rungis réceptionne des produits, ça peut être des produits locaux, hein, parce que maintenant il y a une politique d'aller chercher le produit le moins loin possible. Mais des ananas, ça pousse pas encore en Île-de-France, ni des bananes, donc ni des tomates l'hiver, donc il faut aller les chercher un peu plus loin. Donc si vous voulez, Rungis va chercher tous ces produits pas très loin, voire en France, voire en Europe, voire dans le monde. Donc tous ces produits arrivent sur Rungis et on va dire que
Mais la redistribution est essentiellement sur l'Île-de-France.
Sa distribution est aux alentours de 60-70% sur ce qu'on appelle l'Île-de-France, hein, qui a un marché à peu près de 20 millions d'habitants, et 30% c'est de l'export qui repart dans des grandes villes européennes essentiellement.
Vivalia. J'aimerais ça entendre parler. Comment fonctionne Vivalia? D'abord, est-ce que c'est une organisation qui a une longue vie derrière, ou bien ça a été suite à un regroupement qu'on a créé Vivalia?
C'est un regroupement qui a à peu près une trentaine d'années d'entreprises qui sont implantées dans toute la France. L'objectif de Vivalia, surtout, c'est de pouvoir répondre à des marchés de grands faiseurs. Par exemple, Elior, le marché d'Accor, de restauration d'entreprises, des gens qui proposent des marchés, mais ces marchés doivent être nationaux. Donc, si vous voulez, pour répondre à un marché national, il faut avoir des entrepôts dans toute la France. Ce qui est rare, il n'y a pas de faiseurs qui ont cette possibilité, à part quelques-uns, mais qui sont énormes. Donc Vivalia a été recherché, donc des entreprises qui ont bien voulu s'associer pour répondre à ces appels d'offres, et puis également aller chercher donc ensemble des producteurs, c'est souvent des producteurs locaux, pour partager, et si vous voulez, ils vont s'engager sur des volumes alors que le paysan par lui-même n'a pas encore planté. Donc c'est une garantie pour les producteurs de dire, à ma prochaine saison, Vivalia va m'acheter 20% ou 25% de ma production. Ils se sont engagés et j'ai déjà une garantie. Donc ça, si vous voulez, c'est une association, c'est une coopérative sur laquelle ils travaillent ensemble, en commun, mais chacun est indépendant.
Christian, petite conclusion, parce qu'on on arrive au terme de la quotidienne.
Moi, je m'excuse, Pierre, je suis arrivé un peu en retard, j'avais un autre appel, comme tu sais, ça bouge beaucoup aussi chez nous.
Oui.
Je te confirme, on a eu confirmation, je te confirme qu'on sera à Paris donc du 10 au 15 de mai pour l'activité au Grand Palais éphémère pour la partie culinaire. Donc ça va me faire plaisir de te revoir et de pouvoir aller encore échanger. Encore un grand merci pour votre accueil, ton accueil, ta disponibilité.
C'est toujours un plaisir de recevoir nos cousins canadiens, vous le savez.
Merci beaucoup.
Et dans une prochaine mission de l'Institut en France, peut-être un passage par les Halles de Rungis.
Les cousins qui sont avec moi aujourd'hui sont vraiment des cousins germains, ceux-là.
on est cousins germains proches.
Merci.
Merci, bonne journée à toi, Pierre.
Merci, Pierre, pour ta disponibilité.
Merci, Christian.
Au plaisir.
Au
et bonne soirée pour vous.
Bah, écoutez, j'espère que vous allez finir sur un bon plat.
On devrait.
Cette journée.
Bah oui, tu nous as offert un tablier en plus, on va cuisiner.
Oui, d'accord. Bah, la prochaine fois, je vous offrirai des recettes.
Bonne idée.